Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, notre Seigneur avertit les apôtres qu'il ne va pas rester longtemps avec eux. Certes, c'est l'annonce de sa passion, mais c'est également l'annonce de l'histoire de l'Église. Notre Seigneur va sembler disparaître durant sa passion. Les apôtres seront intrigués, désemparés. Ils ne sauront plus que faire, s'enfermeront dans le cénacle. Et pourtant, notre Seigneur leur avait annoncé sa résurrection et même une résurrection rapide. Et en annonçant sa résurrection, sa passion, sa résurrection, notre Seigneur annonce également l'histoire de l'Église. À savoir que tant que les apôtres étaient avec notre Seigneur, ils voyaient leur ami tout-puissant qui faisait des miracles, et ils se sentaient parfaitement en sécurité, protégés contre la malice des pharisiens et des publicains. Ils se sentaient également protégés contre la malice du monde et leur propre malice. Bref, tout allait bien. Et maintenant que notre Seigneur est mort, alors, comme je vous le disais, ils se sentent désemparés. Et il en va un peu de même pour nous. Nous nous disons que les apôtres avaient bien de la chance, et nous, nous sommes dans les difficultés du monde, qui est une véritable crucifixion de l'Église. Le monde en veut à l'Église et cherche à la crucifier. Le monde mettra du temps, comme les Juifs et les Pharisiens ont mis du temps à pouvoir mettre la main sur notre Seigneur. Notre Seigneur leur échappait continuellement, à cause des foules, mais surtout à cause de la force qui sortait de lui. Et il avait décidé que le moment n'était pas venu. Mon heure n'est pas encore venue. Ainsi en va-t-il dans l'histoire de l'Église. Dès le début, ses ennemis cherchent à la crucifier. Ce seront les hérésies contre la Sainte Trinité, Arius, surtout contre notre Seigneur Jésus-Christ. L'hérésie d'Arius, l'arianisme, au IIIe siècle après Jésus-Christ, est une hérésie qui vient juste après les persécutions de l'Église. L'Église enfin voit venir la paix parce que les persécutions sanglantes vont cesser. Les persécutions qui ont commencé dès la Pentecôte. Et ces persécutions vont cesser. L'édit de Constantin apporte la paix à l'Église. Et puis, aussitôt, ce sont les hérésies contre notre Seigneur Jésus-Christ, l'hérésie d'Arius en premier. Et puis, lorsqu'on sera à peine débarrassé de cette hérésie qui fait de notre Seigneur une créature et non pas un Dieu, alors ce sera l'hérésie nestorienne qui, pareillement, sous prétexte de la gloire de notre Seigneur, qui est Dieu, va nier va diminuer l'incarnation et par conséquent va nier la rédemption. Puisque si notre Seigneur Si notre Seigneur n'est pas homme, alors il n'est pas vraiment mort sur la croix, il ne nous a pas vraiment rachetés. Et c'est pourquoi l'Église a tenu à rappeler l'importance de tenir ce dogme de la double nature de notre Seigneur. Toujours est-il que les hérésies viennent empoisonner la vie de l'Église, enfin empoisonner de notre point de vue. Et en réalité, c'est ainsi que nous nous sanctifions. Alors, notre Seigneur nous l'annonce, et pour nous encourager, il nous dit que ce temps durera peu. Évidemment, à notre échelle, ce temps paraît fort long, puisque l'Église n'a jamais cessé d'être dans les combats, et ce furent les croisades. Après les croisades, ça a été tout l'humanisme, ça a été enfin, les difficultés du Moyen-Âge qui n'avaient pas la perfection qu'on lui attribue d'habitude, la querelle du sacerdoce et de l'Empire, la décadence du clergé, tout cela, ça a été des luttes difficiles à soutenir par l'Église. Parce que lorsque le clergé est décadent, alors tout s'affaisse. Et puis après ça, ça a été l'humanisme, et vous connaissez cela, la Renaissance, le protestantisme, cette révolution dans l'Église, et puis les prétendues lumières, qui ne sont que des mensonges de faux philosophes, et puis et après ça, le libéralisme, le communisme, et peut-être la pire de toutes maintenant, la lutte contre le modernisme, puisque le modernisme est un poison qui va infecter l'Église en déformant ce qu'elle est. Les autres hérésies niaient. Notre Seigneur n'est pas Dieu, notre Seigneur n'est pas homme, le Christ n'est pas dans l'Eucharistie, ou des choses comme cela. Cette nouvelle hérésie, l'hérésie moderniste, vient prendre les vérités de la foi et elle les réinterprète. Elle les interprète dans un sens humain, humaniste, évolutionniste, gnostique. Et Mgr Lefebvre disait que le Concile Vatican II est la plus grande catastrophe, le plus grand drame depuis le début de l'histoire de l'Église. Alors, notre Seigneur, cependant, nous dit que ce temps sera bref et qu'il prend l'exemple de la femme qui enfante et elle se réjouit parce qu'un homme est venu dans le monde. Et remarquez bien qu'il dit un homme et non pas un enfant, parce que l'enfant est déjà un petit homme et surtout c'est l'homme qu'on voit à travers l'enfant. Alors, dans ces conditions de lutte, notre Seigneur nous dit, dans l'Évangile, pratiquement en même temps, « Je serai toujours avec vous ». Et également, dans ce même discours après la scène, « Je vous enverrai le paraclet ». Comment notre Seigneur est-il avec nous ? Notre Seigneur est avec nous par la grâce. La grâce a pour but de le faire vivre en nous, pas seulement à côté de nous, mais en nous. Et ce sont ces vérités certainement que nous devons méditer, dont nous devons vivre actuellement. Je recevais il n'y a pas longtemps une lettre d'un bon ami qui me dit « La grande défaillance des temps modernes aura été de mettre l'accent sur le bien des âmes en laissant dans l'ombre la gloire de Dieu. Cela donne des esprits mesquins et calculateurs. Dieu nous en préserve. » Alors, nous avons dans le livre « L'étoile contre la croix », dont je vous recommande vivement la lecture, l'affirmation que tant que les missionnaires ont demandé aux fidèles de se sanctifier, ils n'ont rien obtenu. Et c'est quand ils ont demandé aux fidèles de faire de l'apostolat qu'ils ont obtenu et l'apostolat et la sanctification. Alors, y a-t-il contradiction entre les deux? Évidemment, non. Il est évident que pour des prisonniers dans les geôles communistes, par exemple, ce qui va dominer, ça va être la contemplation de Dieu, tandis que l'action extérieure sera un peu limitée. À l'inverse, les chrétiens de Chine se sont donné beaucoup de mal pour faire aimer notre Seigneur, mais c'est ainsi également qu'ils ont chanté sa gloire. Il faut ne pas opposer la gloire de Dieu et le salut des âmes. L'un va avec l'autre. Alors, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, chercher la gloire de Dieu, c'est tout d'abord nous réjouir de ce que notre Seigneur va au Père. Il le dit dans l'Évangile, « Je vais au Père ». Le Père, c'est la perfection, la Sainte Trinité, Dieu est Trinité. La perfection de Dieu, c'est le bien absolu, c'est ce qui dépasse tout être. Nous avons du mal à comprendre ce qu'est la perfection de Dieu parce que nous sommes obligés de partir des créatures et nous montons des créatures vers Dieu comme une échelle, comme par une échelle. Et alors, cette grandeur de Dieu, notre Seigneur, qui est Dieu, qui est descendu sur terre, remonte vers Dieu le Père, c'est sa gloire, et rien que cela nous réjouit. Et on voit dans les réponses des martyrs au bourreau, ces belles réponses, « Je suis avec Dieu, Dieu ne m'abandonnera pas, tu peux faire ce que tu veux de mon corps, mais mon âme est destinée à l'éternité. » Il y a cette foi en la grandeur de Dieu, je ne dis pas seulement la toute-puissance, parce qu'ils n'invoquent pas la toute-puissance pour défaire les ennemis, ils invoquent surtout la foi en Dieu éternel qu'ils vont rejoindre. Et ça, c'est la première chose dans la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est que dans notre vie, nous sommes un peu comme les ambassadeurs du Christ et nous devons avoir le comportement qui convient à des représentants de Dieu. Nous sommes, dit Saint-Pierre, un peuple saint, une race royale. Et parce que nous sommes une race royale, nous devons avoir un comportement royal. Comment cela? Eh bien, c'est peut-être plus dans les épreuves que le comportement royal se voit, se montre, et j'allais dire, a du mérite. On a eu un comportement royal avec le maréchal Pétain dans les épreuves. Beaucoup ne l'ont pas compris et n'ont pas compris toute la valeur de la fidélité. Alors, il est évident que la royauté du chrétien dépasse infiniment la royauté d'ici-bas et le chrétien est le représentant du roi des cieux. Comment avons-nous un comportement royal? L'Épître nous le dit, c'est pour ça que l'Épître a été mise par l'Église en ce dimanche pour expliquer l'Évangile. Dans les épreuves, faites du bien. Ne vous révoltez pas. L'Épître est surprenante parce qu'elle nous dit qu'il faut respecter les rois, les maîtres, même mauvais. Et nous étions, au moment où Saint-Pierre écrit, nous étions dans les persécutions de Néron. Et donc, Saint-Pierre, les chrétiens le comprennent bien, Saint-Pierre dit qu'il faut respecter même Néron, dont le pouvoir vient de Dieu. J'ouvre une parenthèse, mais c'est pour cela que nous ne pouvons pas être, comme on dit, cédévacantistes. Je laisse de côté le fait que les représentants de l'Église, les cardinaux, que sais-je, pourraient éventuellement déposer le pape. Ça, c'est une question à part. Mais pour l'instant, de fait, le pape n'a jamais été déposé. Je laisse de côté le fait qu'un homme qui tomberait dans l'hérésie cesserait d'être pape. Et on peut toujours discuter de cela. Mais il est un fait que le pape ne s'est fait ni bouddhiste ni protestant et qu'il prétend toujours être le représentant de l'Église catholique. Il y a là un mystère qu'il faut accepter et contre lequel nous ne pouvons pas nous révolter. Le bon Dieu a voulu que les chrétiens se sanctifient dès le début de l'histoire de l'Église, dans les persécutions, et jamais un chrétien ne s'est révolté contre l'empereur. Lorsqu'on voit la légion thébaine qui est décimée, c'est toute une légion romaine qui est chrétienne, et elle ne pourrait, il lui suffirait de lever les armes contre ceux qui veulent la décimer, et c'est évident qu'elle n'en ferait qu'une bouchée. Et au contraire, elle se laisse faire, elle accepte, et 1 sur 10 est décapité, on resserre les rangs, et puis on recompte 1 sur 10. Le représentant de l'empereur espère ainsi faire céder les chrétiens, les chrétiens, les soldats chrétiens de la Légion thébaine, thébaine parce qu'elle s'était illustrée à Thèbes, et ainsi jusqu'au dernier, ils seront exécutés. C'est le martyr de Saint-Maurice, tout près d'Écône, en Suisse. Il y a donc à accepter cette situation. Et aujourd'hui, où vous allez m'écouter, c'est le jour d'élection, et il est évident que nous avons le choix, enfin, nous aurons ce soir ou la peste ou le choléra, et on voit bien l'inquiétude des Français aujourd'hui. C'est dans ces situations que notre Seigneur veut nous sanctifier. Et il nous dit, ne vous inquiétez pas, petit troupeau, j'ai vaincu le monde, je suis passé avant vous par là, je semble disparaître, mais en réalité, je monte, je vous prépare une place, et de là-haut, je serai en réalité toujours avec vous. Alors, en même temps, parce que nous vivons de l'amour du Christ, alors nous voulons que l'amour soit aimé, et nous savons, et Saint Pierre nous le dit, qu'en acceptant les souffrances, les persécutions, nous faisons du bien. Le bien avance malgré tout. Et alors, et je terminerai là-dessus, mes bien chers frères, à certains moments, évidemment, nous pouvons nous dire, certes, je fais du bien, et puis cela m'encourage. À d'autres moments, nous disons, mais le bien que je fais ne porte aucun fruit, et cela nous décourage. Alors, il faut bien nous rappeler que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, le maître c'est Dieu. Dieu est le maître du temps. Il nous a placés à des moments difficiles, mais lui sera de toute façon le vainqueur du monde. Et pour nous encourager, nous avons le message de la Très Sainte Vierge à Fatima, qui dit finalement la même chose que notre Seigneur, c'est évident puisqu'elle vient du ciel. Elle dit aux petits-enfants de Fatima et à nous tous, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » En attendant, nous cherchons la conversion des pécheurs et nous pouvons faire beaucoup pour la conversion des pécheurs. Par la prière, par l'exemple, et surtout en suppliant notre Seigneur Jésus-Christ, en suppliant Dieu le Père, en offrant Jésus crucifié à Dieu le Père, comme la Sainte Vierge l'a fait au pied de la croix. La Sainte Vierge disait à Dieu le Père, Jésus, vous me l'avez donné, il est mon fils, d'une certaine manière, il est à moi, parce que si vous n'aviez pas voulu qu'il fût à moi, vous ne me l'auriez pas donné comme fils. Il est à moi, alors puisque vous me l'avez donné, je vous l'offre, je vous le rends, je vous l'offre pour le salut de toute l'humanité. Et Dieu le Père agrée cette offrande de son fils, bien sûr, mais cette offrande qui lui est présentée par la Sainte Vierge. Et nous aussi, nous pouvons offrir à Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ nous offrir avec lui, bien sûr, comme faisait la Très Sainte Vierge. Et c'est ainsi que nous vivons dans l'espoir, dans l'espérance, dans la grande vertu d'espérance, qui fait que malgré les difficultés d'ici-bas, notre vie est vraiment au ciel. Alors, demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous donne cette ardeur, même si nous ne voyons pas le fruit, peu importe. L'Église probablement tombera encore plus bas, elle sera réduite à des dimensions domestiques, c'est-à-dire à quelques familles, disait le cardinal Pi, et Mgr Lefebvre disait la même chose, elle sera réduite à quelques familles, peu importe, c'est Dieu qui travaille, nous nous sommes des serviteurs, Dieu nous demande de servir. On pourrait prendre l'exemple de la moisson. Il faut d'abord labourer la terre, et lorsque la labour est finie, la terre est nue, il n'y a plus aucune végétation, on a l'impression qu'elle est morte. Et puis, c'est un autre qui va semer, et lorsqu'il sème, de nouveau, on a l'impression que le grain est mort. Le grain est en terre, il est enfoui, il semble pourrir. Et puis c'est un troisième qui va venir et faire la moisson. Et lui se réjouira de la moisson. Et l'Écriture sainte nous dit, eh bien, lui se réjouit, les autres ont été dans la peine. Et pourtant, ça a été le même travail qui a été accompli. Alors, que Dieu vous donne à la fois cet enthousiasme pour la gloire de Dieu, ce zèle pour le salut des âmes, en vous appuyant sur la Sainte Vierge, en vous confiant à la Très Sainte Vierge, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.